Midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous savez qu'on aime être à vos côtés pour vous montrer que si le monde change, c'est aussi grâce à vous et avec vous. Et vous nous prouvez tous les jours que vous savez prendre les rênes, ne pas vous laisser aller pendant cette crise historique que nous traversons. Les masques avant le Covid, c'était un objet qu'on voyait surtout en Asie ou sur nos soignants. Mais il y a quelques mois encore, nous n'aurions jamais cru qu'ils allaient devenir un élément familier de notre vie quotidienne. Et pourtant, vous l'avez entendu dans le journal, ça y est, l'État a reçu une première très grosse cargaison réceptionnée de Chine et les forces vives du pays qui sont en capacité de produire sont aussi à pied d'œuvre en ce moment pour nous doter d'un maximum de masques efficaces pour nous protéger et protéger les autres bien sûr. Et on va voir que les initiatives ne manquent pas. Pour les décliner, elle est à mes côtés comme chaque jour. Elle va tout vous dire. C'est Elisabeth Assayac. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Vous portez votre masque aujourd'hui Raphaël?
Enfin
aujourd'hui,
ah oui, chez vous, non. J'ai ma petite vidéo sur Twitter et sur LinkedIn. Vous me verrez avec un masque fabriqué maison par ma tante.
Très bien.
Et puis on va... Vous avez votre masque, vous aussi?
Mais oui, moi aussi, j'ai posté, j'ai mon masque. Alors moi, il n'est pas fabriqué par ma tante, il est fabriqué par ma charmante voisine. J'ai une voisine qui habite au 4e étage, elle est à la retraite. Et elle a pris une initiative d'elle-même, elle a confectionné des masques pour tous les gens, tous les habitants de l'immeuble, adultes, ainsi que pour les enfants. Elle va distribuer les masques pour les enfants là, dans les jours qui viennent.
Eh oui, des initiatives comme celle-là, il y en a énormément et on va les passer en revue ensemble avec nos invités. Ils vont nous rejoindre pour nous donner toutes les informations dont ils disposent. Ce qui nous a sauté aux yeux, effectivement, en préparant cette émission, c'est le formidable élan qui s'est manifesté aux quatre coins du pays pour se mettre à fabriquer. C'est le cas avec les petits masques solidaires. Bonjour Julie Giorgetti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes couturière et fondatrice du site. Tout commence, je crois, quand une infirmière vous demande de lui fabriquer un masque et vous allez tout simplement poster la photo. Photo qui est vue 500 000 fois.
Oui, du coup, exactement. C'est une couturière qui m'a demandé, libérale, en disant c'était juste avant le confinement, de lui fabriquer un masque. J'ai posté la photo et là, ça a eu un effet boom où tous les hôpitaux, les EHPAD, les professionnels qui continuent de travailler ont commencé à me contacter pour essayer de les aider à produire des masques. Donc j'ai créé un groupe sur Facebook. Je pensais sincèrement que ça allait durer 10 jours parce qu'on nous disait que les masques arrivaient. Et là, ça fait plus de 8 semaines qu'on travaille tous les jours, tous les bénévoles. On a fait des centaines de milliers de masques. On est plus de 15 000 sur le groupe et ça n'arrête pas.
Donc ce groupe Facebook, il a permis de recenser les petites mains qui savent tenir une aiguille, ce qui n'est pas mon cas, ou faire fonctionner une machine à coudre?
Alors justement, oui, on met en relation les couturières qui savent faire des masques ou qui ne savent pas et on les accompagne justement pour dans la fabrication avec la demande des professionnels.
Combien de masques fabriqués? Parce que vous dites vous-même que vous êtes surprise par l'engouement qu'a suscité la création de ce groupe Facebook.
Oui, moi j'en suis à plus de 1000 masques distribués, donc bénévolement, avec ma matière première, parce que voilà, mon métier était couturière, donc j'avais un peu de matière première chez moi. L'engouement, il est énorme, les demandes explosent, on est dans une anxiété sociale qui fait que ben voilà, tout le monde veut des masques, et à l'approche du déconfinement, l'anxiété monte, donc les demandes explosent.
Ouais. Justement, Elisabeth, qu'a décidé le gouvernement concernant le port du masque pour qu'on soit bien au clair sur ce dossier?
Alors, après le 11 mai, c'est préférable et obligatoire dans certains cas. Alors, qu'est-ce qui est obligatoire? Dans les endroits où une personne est proche d'autres personnes, comme dans les transports en commun, sur le lieu de travail ou encore dans les magasins, dans les taxis, les VTC, qui ne disposent pas de protection en plexiglas, c'est obligatoire. Dans la rue ou dans les commerces, il n'y aura aucune obligation. En revanche, le port du masque doit être, comme ils disent, mis en œuvre dans les entreprises où les mesures de distanciation ne sont pas possibles. Ça signifie quand les locaux sont trop étroits, quand on est à 5 dans un bureau, sachant que le télétravail est encore très recommandé, même après le 11 mai. Dans les écoles, alors là, c'est encore un peu flou parce que il n'est pas recommandé pour les élèves des classes élémentaires. Il n'est pas nécessaire pour les élèves de maternelle, mais des livraisons sont prévues tout de même dans chaque école élémentaire. Au cas où si un enfant présentait des symptômes en attendant que ses parents viennent le chercher, là, il se verrait attribuer un masque. Le port du masque est obligatoire pour les collégiens et le personnel chargé de l'éducation. Ça concerne l'établissement qui seront ouverts. Il le sera aussi pour le personnel de la petite enfance. Reste à savoir ce qui va être ouvert ou pas d'ici, enfin, à partir du 11 mai.
Oui, avec toutes effectivement ces modulations, on comprend que ça puisse inquiéter la population. Julie Giorgetti, vous disiez il y a quelques instants, on prépare le déconfinement. Ça veut dire que vous attendez à passer vous aussi à l'étape supérieure. Je crois que vous avez fait les comptes parce que vous dites acheter un masque pour une famille de trois par exemple, ça coûte 150 euros par mois. C'est quand même un budget colossal.
Oui, c'est un budget colossal et du coup, on va créer du coup un écart social entre ceux qui vont pouvoir s'acheter des masques et ceux qui ne peuvent pas. Du coup, on a structuré les petits masques solidaires en association et on a monté une cagnotte sur Litchi pour récupérer des fonds, pour équiper nos couturières aussi en tissu homologué et acheter des masques homologués qu'on redistribuerait aux associations sur le terrain comme les Restos du Cœur, le Secours catholique, etc. Pour équiper les plus démunis sur le terrain. Et en parallèle, on a monté voilà un partenariat aussi avec les différents hôpitaux pour équiper, ben, par exemple, une personne qui vient voir son proche en EHPAD. Il faut qu'il ait un masque. Donc voilà, que les EHPAD aient des masques faits par des bénévoles ou des couturières dans une économie locale et solidaire à disposition.
Oui, cette cagnotte, c'est vrai que c'est important parce que ça permet effectivement d'acheter du tissu de qualité. Je crois que vous avez envie d'aller plus loin aussi et de penser à l'étape d'après, c'est-à-dire au recyclage.
Oui. Du coup, dans la fin de cette chaîne, donc dans l'association, on a pensé au recyclage parce que tous ces milliers de masques vont être jetés. Et dans notre projet, on aimerait qu'ils soient recyclés à travers des associations qui fabriquent des isolants.
Alors justement, restez avec nous. Autre initiative, et vous allez voir que ça a du sens. Elle émane de l'entreprise Continental Fripp qui a commencé à fabriquer aussi des masques et des visières et qui a créé le site Protectivor où on peut commander sa protection. Bonjour Nina Akbal.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes au point de départ de cette aventure, cofondatrice de l'entreprise. Je parlais de recyclage justement. C'est votre cœur de métier, le recyclage de textiles depuis 20 ans. En principe, vous collectez les vêtements, vous les triez, vous les recyclez. Mais là, vous avez converti votre production.
Exactement. On a décidé de mettre notre production au service de la lutte nationale contre le Covid-19. Et donc, on fabrique trois types de masques et des visières.
Comment est-ce que vous vous êtes organisé justement, parce que ça n'a rien à voir de trier et recycler et de fabriquer?
Alors on est une entreprise familiale, donc chez nous en fait la couture c'est de père en fils et fille depuis des décennies. Et donc ça fait ça assez naturellement en fait de vraiment réorganiser la production, de former le personnel de façon à pouvoir fabriquer des masques qui répondent aux besoins du public.
Vous avez mis en place aussi, je crois, et c'est peut-être important de le dire, un site où chacun peut commander ses masques. J'en ai parlé, ça s'appelle Protectivor.
C'est ça, ça s'appelle protectivor.fr. Et donc, les particuliers, comme les entreprises, comme les collectivités locales, peuvent passer une commande de masques et de visières en nous envoyant un mail ou en remplissant le formulaire. Et nous, on leur répond en leur expliquant donc ce qu'on fait, comment ça marche. Voilà.
Et vous arrivez à en produire combien aujourd'hui? Vous en avez déjà produit combien et combien vous espérez pouvoir en produire?
Alors, on a reçu un total de demandes de 30 000 masques et 3 000 visières en l'espace de 2 semaines. Donc, on a été agréablement surpris et contents du résultat. Nous, aujourd'hui, on a une production d'environ 2 000 masques par jour. Qui s'adapte en fait à la commande. Donc, on produit en fait à la commande. À chaque fois qu'il y a une demande... on produit sous 5 jours. Voilà, donc c'est très variable.
Et sur la question des prix,
Les masques sont vendus à prix coûtant. Oui. Ils sont à 5 euros à TTC limité. Et après, c'est dégressif en fonction des quantités.
Vous êtes aussi, je crois, en train de développer un modèle qui est à mi-chemin entre le masque et la visière, c'est-à-dire?
C'est ça. Alors, on s'est dit que la visière, c'est bien, mais les gens cherchent plutôt des masques et du coup, ils ne s'intéressent pas vraiment à comment protéger en fait le haut du visage. Mais finalement, trouver un modèle hybride, c'est assez complexe. Donc, on s'est dit qu'en fait, un modèle hybride amovible avec une visière qu'on peut enlever et remettre de façon à pouvoir laver le masque parce que nos masques sont lavables, c'est un plus en fait. Donc, on est en train de développer ça.
Oui, c'est important ce que vous dites, les masques lavables. Justement, Elisabeth, on parle masque, on dit le mot masque, mais il faudrait le mettre au pluriel, hein, parce qu'il y en a plusieurs des masques, il n'y a pas qu'une seule version.
Oui, il y en a plusieurs. Alors, les particuliers sont invités à confectionner eux-mêmes des masques en fonction des normes AFNOR et de l'agence du médicament. Donc, le masque, c'est ce qu'on va appeler les masques grand public. Alors, ces masques grand public, ils sont en tissu lavable. Ils sont réutilisables plusieurs fois. Ils n'ont pas le même degré de protection qu'un masque chirurgical, hein, le fameux FFP2. Ça, c'est l'autre masque qui est réservé aux soignants ou à toutes les personnes à risque qui sont en première ligne. Là, ce masque grand public, il doit répondre donc à ces normes. Si vous voulez aller voir les normes AFNOR, vous allez sur afnor.org, vous avez toutes les indications si vous voulez le fabriquer vous-même. Il peut être fabriqué de manière artisanale à partir donc de fameux tutoriels. Vous avez plein de modèles de patrons disponibles sur internet ou diffusés par l'AFNOR ou par le CHU de Grenoble par exemple. Il est à trois plis ou à bec de canard et il peut être aussi fabriqué de manière industrielle. Ces masques à fabriquer soi-même doivent être lavés à 60 degrés, pas moins, en machine sur un cycle coton après chaque utilisation et moi je vous conseille aussi de les repasser.
Merci pour ces précisions. Elisabeth, on va rester ensemble, on va continuer à voir les initiatives qui sont véritablement très nombreuses hein, aujourd'hui en France pour se mobiliser et pour fabriquer ces masques pour la période de déconfinement. Il est 13h16.
Europe 1.
L'industrie textile s'est mobilisée, elle aussi, vous allez le voir à grande échelle. Elle est aux avant-postes pour nous fournir les masques dont nous allons tous avoir besoin. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h18 sur Europe 1 et vous le savez, hein, dès le début du confinement, on a vu les industries textiles se regrouper, réfléchir à la manière dont elles pouvaient continuer à être utiles. Elles ont réussi très vite, c'est vrai, à se fédérer et à se mettre à fabriquer à grande échelle pour nous. C'est aussi le cas, par exemple, chez Tuan. Bonjour Elisabeth Ducoté.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver puisque vous étiez venue nous voir dans la France Bouge. Vous êtes la présidente de ce groupe qu'on connaît bien, hein, qui est leader européen dans tout ce qui touche aux dispositifs médicaux et textiles. Vous avez, vous, dès le début, commencé à mobiliser votre outil industriel ?
Alors je vais vous dire, on a fait même avant le début, parce qu'en fait, on savait que quand pandémie risquait d'arriver, on savait que nous aurions à protéger nos collaborateurs. Et donc nous l'avons fait d'abord pour nos collaborateurs et pour pouvoir maintenir l'activité dans de bonnes conditions de travail. Donc nous avons développé des masques et nous nous sommes dit, dans le fond, ces masques vont bien pour la protection des collaborateurs qu'on a tous équipés. Et à ce moment-là, on s'est dit, on va le faire également pour le public. Et c'est à ce moment-là que l'AFNOR a mis en place ses spécifications de ce masque barrière, de ce nouveau masque alternatif qui est différent du masque réservé aux sanitaires, c'est-à-dire à la filière pour les médecins et pour les infirmières. Mais voilà, nous avons nous maintenant cette diffusion d'un masque barrière.
Alors, vous avez, je crois, carrément créé un laboratoire pour les tester, ces masques. Et puis, quand les pouvoirs publics vous ont sollicité, ils vous ont demandé de travailler plus spécifiquement sur des masques qui pourraient rester actifs pendant au moins 5 lavages. Vous êtes allé bien au-delà.
C'est ça. Alors, en fait, effectivement, on s'est dit, pour bien savoir ce que l'on peut faire et bien le mesurer, parce que dans les spécifications de l'AFNOR, il y a plusieurs critères que nous devons respecter, évidemment, et nous avons bien sûr choisi de respecter à la lettre ces critères. Eh bien, nous nous sommes dit, pour mettre ces masques qui ensuite ont été testés par les laboratoires extérieurs, mais il faut d'abord les tester en interne. Donc, première chose, on a mis un laboratoire chez nous pour pouvoir savoir exactement quelles étaient les qualités de ce masque, et nous savons que ces masques, parce que nous en avons plusieurs, sont très filtrants. Ils filtrent jusqu'à 99% des particules de 3 microns. Et voilà. Et donc, nous avons mis du temps aussi à les préparer et à les faire sur un modèle qui est un modèle très haut de gamme en filtration et aussi les rendre lavables. Parce que quand on a un masque qui se lave et qui se lave un grand nombre de fois, on va pouvoir l'utiliser pendant longtemps. Et c'est vraiment notre objectif, c'est que le coût par jour, et je vois que c'est bien expliqué en ce moment dans les médias, vous êtes tous en train d'expliquer très bien qu'il faut regarder le coût par jour rapporté à la journée d'utilisation. Et nous avons dans notre gamme plusieurs masques, certains à 30, certains à 45 lavages, et nous sommes en train même d'en préparer un peu plus. Donc actuellement, nous pouvons avoir un masque ou un alternatif de deux masques qui vont servir pendant une période longue qui va être un mois, voire plus d'un mois.
Justement, quelle est la matière que vous utilisez? On sait que vous êtes un spécialiste du textile médical. Hein. Est-ce que vous vous êtes servi de ces mêmes matières pour fabriquer ces masques?
Absolument, absolument. Nous avons gardé exactement ces matières qui sont des matières qui nous servent donc dans les dispositifs médicaux, donc qui sont souvent des matières Ecotex, donc avec un label.
Oui, par exemple, pour les bas de contention.
Exactement, c'est tout à fait ce même genre de matière. On a donc des matériaux qui sont bio-responsables et puis on a aussi des matériaux qui sont de très haute qualité en durabilité, ce qui permet justement d'assurer ces lavages parce que c'est des matériaux qui sont habituellement utilisés, je dirais, dans des conditions un peu extrêmes, une chenillière, donc qui sont soumises à de grandes possibilités d'usure, etc. Donc nous avons gardé ces mêmes matières qui sont des matières de la santé.
Alors justement, Elisabeth, est-ce qu'il y a des matières spécifiques, spéciales à utiliser quand on veut fabriquer des masques?
Alors la toile de coton, c'est ce qu'il y a de plus utilisé. Deux couches de toile de coton resserrer une couche de viscose, une sorte de soie artificielle, de polyester ou de polyamide, ça c'est pour les masques classiques, ou deux couches de popeline de coton pour les masques à trois plis. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais parce que c'est bien qu'il y ait trois couches quand on fabrique soi-même son masque. S'il n'y en a qu'une seule, c'est pas ce qui est recommandé. Les autorités sanitaires françaises ont d'ailleurs validé plus de 80 prototypes auprès de 50 entreprises de la mode et du textile pour pouvoir fabriquer ces masques avec des matières comme le coton, le polyester ou la popeline de coton.
Vous restez évidemment avec nous, Elisabeth. On va continuer à regarder ce qui se passe dans la filière textile, dans toutes ses composantes. Elle est mobilisée. Bonjour Karine Renouille-Tiberghien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la co-dirigeante de la manufacture de layettes et tricots Jean Ruiz. En principe, et on l'aura tous compris, vous fabriquez pour les bébés, hein, la layette. Mais
oui.
Vous aussi, vous avez complètement changé votre fusil d'épaule, si j'ose dire.
Oui, tout à fait. Nous, on est des tricoteurs. On a deux ateliers de tricotage rectiligne, un à Pau, la manufacture de layettes, et puis Jean Ruiz à Roanne. Et c'est vrai qu'on tricote 500 000 vêtements par an, principalement pour le bébé, mais aussi pour l'adulte, en particulier à Roanne.
Attendez, parce que le tricot, en principe, c'est pas conseillé pour les masques. On est d'accord.
C'est un peu ce qu'on s'est dit, parce que quand Agnès Pannier-Runacher a vraiment fait appel à tout le textile français en essayant de la mobiliser, nous, ce qu'on a dit, attention, nous, on tricote. Donc, c'est-à-dire, on fait un nœud, un trou. S'il y a trop de trous, ça va pas être très filtrant.
Oui.
Donc, comme on voyait quand même qu'il y avait un besoin de masques, il y avait des transporteurs qui livraient, il y avait plein de masques, enfin, des personnels de magasin, des gens comme ça, on s'est dit, nous, on peut au moins faire un truc, c'est essayer. Après, on verra si ça marche pas, ça marche pas. On partait de très loin parce que voilà, on sait faire un très beau bonnet, on sait faire de belles écharpes, de beaux pulls, mais un masque, on n'avait même pas de guide de d'antériorité. Mais bon, on s'est dit, on fait des prototypes, aussi bien les deux équipes, à Pau et à Roanne, qui sont mis, Arnaud et Fred à Pau, et puis Florence et Manu à Roanne. Et on a envoyé le premier prototype qui était très, très loin de ce qui était demandé en termes de filtration. Donc, on s'est dit que c'était pas pour nous. Et
ouais.
Puis, il cherche, il trouve un petit truc, il envoie, mais un peu en disant ça va pas être pour nous. Et puis le test revient, c'est positif. Donc en fait, à partir du moment où on a tenu un truc, on s'est dit ah oui, si on tricote comme ça, si on voilà, ça marche. En fait, c'est filtrant. Et à partir de là, on a bougé à partir de là et on a réussi à faire des masques qui ont les capacités de filtration qui sont demandées, aussi bien en catégorie 2 qu'en catégorie 1.
Aussi intéressé, parce que c'est important, à la qualité des élastiques. Et là aussi, je crois que vous avez utilisé une vieille tricotine pour les fabriquer.
Oui, parce que, en fait, alors, depuis un mois et demi, on avance un peu à l'aveugle, dans le flou, et en faisant avec ce qu'on a sous la main. Donc, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de ressources humaines, de ressources industrielles. Et puis, après, on rencontre des problèmes au fur et à mesure. Donc, le principal problème, on s'est dit, attention, il faut qu'on fasse attention à la matière première. Donc, on est allé chercher du coton en France en se disant, voilà, si toutes les frontières sont fermées, au moins, on recevra notre notre coton qui est teint par ETT à Tourcoing. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis, en avançant, tout d'un coup, on s'est dit, ah, mais mince, des élastiques, on a essayé d'en chercher. Et ben, il n'y en avait plus parce que tout le monde en demandait partout. Donc là, du coup, il a fallu se creuser les ménages. Et Annie et Florence, pour le coup, à Roanne, se sont dit, mais si on mettait en route la tricotine avec du lastex, finalement, est-ce que ça ferait pas un très joli élastique? Et ben, si. Ben, en fait, on savait pas, mais on savait faire des élastiques. Et alors là, on a été encore plus loin. C'est-à-dire que cet élastique, du coup, on l'intègre dans le programme de tricotage et il est intégré dans le masque par le métier à tricoter, par la machine industrielle. Donc là, en plus, on a fait une petite découverte technique qui nous plaît bien et qui limite en fait les opérations après, une fois que le masque est tricoté, pour qu'il soit complètement finalisé en produit fini.
Ouais, Donc, en fait, vous avez fait 40 000 hein, des masques, vous avez fourni le BTP, les supermarchés, dès le 11 mai, vous serez disponible dans le grand public. Je voudrais qu'on reprenne une petite minute, Elisabeth, du côté. Je crois que ça y est, les livraisons partent en ce qui vous concerne chez Tuan pour les pharmacies cette semaine. Elisabeth Ducoté. Ah, alors, elle n'est peut-être plus avec nous. Oui, alors bah, justement, Elisabeth, vous êtes là. Oui. Les industriels, on le voit, sont mobilisés. On en connaît beaucoup, des industriels mobilisés.
Oui, nous, on vous l'avait annoncé hein, sur Europe 1 avec Saint-James, le CIP français, 1083. Hein, ils se sont tous adaptés très très tôt dans la crise pour pouvoir utiliser leur savoir-faire au profit des masques. Il y en a des tas d'autres. Vous avez l'entreprise Missaigle qui est spécialisée dans la fabrication de chaussettes et de pulls en matière naturelle. Eux, leurs masques, ils en fabriquent. Ils respectent les normes, la norme AFNOR. Ils coûtent 6 euros. Et si vous en achetez auprès d'eux, c'est également l'occasion de faire une bonne action, puisque pour un masque acheté, 1 euro est reversé à la recherche médicale. Vous avez Néobulle, qui est une entreprise de Saint-Bonnet-le-Château, qui continue aussi à se mobiliser pour fournir des masques, mais aussi des surblouses. Et d'ailleurs, plus de 15 000 masques ont été fabriqués. 2 000 d'entre eux ont été déjà offert à des professionnels du département.
Grosse mobilisation effectivement du secteur textile et on va continuer à le voir ensemble. Il est 13h28 sur Europe 1.
Europe 1.
Faudra-t-il? Et vous avez commencé à y répondre, Elisabeth, équiper nos enfants, tout dépend de l'âge. Et on va voir que là aussi la mobilisation fonctionne pour leur offrir des protections qui ne les effraient pas.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h30 sur Europe 1, on commence, c'est vrai, à y voir un petit peu plus clair hein, sur la manière dont on va devoir équiper nos enfants. Mais pour eux, effectivement, les tailles sont très différentes des nôtres. Et pour qu'ils s'approprient l'objet, vous allez voir qu'il a fallu avoir recours à pas mal d'imagination. Mais d'abord, je voudrais qu'on aille du côté de Benhamil, en Meurthe-et-Moselle, où là, le maire a eu une très bonne idée. Bonjour Bruno Minutilo.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez décidé, vous, carrément de prendre les choses en main et d'équiper les 80 élèves de l'école de votre commune avec des visières de protection. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette initiative?
Effectivement, oui, nous avons pris la décision d'équiper les enfants de notre école en visière. Alors, très rapidement, en fait, nous sommes posé la question comment protéger au mieux nos enfants au niveau de l'école du village. On doutait fortement dès le départ de l'efficacité des masques en tissu, notamment pour les enfants, on est bien d'accord, parce que les enfants, on a très vite remarqué, puisque nos enfants, nos propres enfants, ont beaucoup de difficultés à les conserver. Et puis en échangeant avec un de mes conseillers municipaux qui a une entreprise, nous avons réfléchi sur l'adaptation d'une visière, mais à taille enfant. Puis il nous a proposé rapidement un modèle que nous avons tous adopté au niveau du conseil municipal et puis on a décidé d'équiper l'ensemble de nos enfants de ces visières.
Donc c'est une entreprise locale qui fabrique à leur taille les visières qui vont, précisons-le, rester à l'école. Hein.
Exactement. Alors la spécificité, puisque des visières il en existe déjà, la spécificité notamment de la fabrication elle est locale. Deux, elle est fabriquée dans une matière du polypropylène qui est très léger, puisque un masque en enfant pèse environ 27 grammes et est largement supportable sur une journée entière par un enfant. Comme vous l'avez dit, donc les masques resteront à l'école. seront proposés le matin aux enfants qui le souhaiteront, puisque rien ne sera obligatoire, hein, bien évidemment, mais nous souhaiterons donc nous souhaitons équiper chaque matin les enfants d'une visière. Et elle sera récupérée le soir et nettoyée par les agents communaux.
Et votre initiative, je crois, a fait boule de neige, parce qu'il y a d'autres municipalités qui vous ont contacté en vous disant « mais c'est une très bonne idée, on aimerait faire pareil ». Du coup, vous les avez mis en contact avec l'entreprise locale. Comment ça s'est passé ?
C'est cela. Cela a été la grosse surprise. Très rapidement, grâce aux réseaux sociaux, donc notre initiative a fait... je vais dire le tour de la France, même en dehors des frontières, puisque dès le lendemain matin, nous avons été contactés par de nombreux maires en France, de nombreuses écoles. J'ai une de mémoire, l'agréable surprise d'avoir eu l'appel d'une directrice d'école parisienne qui m'a simplement appelé pour me féliciter sur cette initiative qu'elle trouvait géniale. Ça fait du bien de l'entendre. Et puis nous avons mis au niveau de la commune l'ensemble des personnes qui souhaitaient équiper leurs écoles. On les a mis en relation avec la société et puis l'entreprise. Je sais qu'elle a de nombreuses commandes. Et de mémoire, je crois qu'il y a même une école canadienne qui a fait une commande à la société.
Ah oui, effectivement, une école canadienne, ça c'est assez original. Ça montre que ça. Votre initiative a fait effectivement des émules. Restez avec nous, je voudrais qu'on accueille ensemble Sylvette Lestrade, qui est couturière et présidente de l'association Galta Anime dans le Morbihan. Bonjour Sylvette.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vos couturières, celles de l'association, se sont mobilisées pour fabriquer des masques qui sont personnalisables. C'est-à-dire, ce sont les parents, je crois, qui vous ont demandé en premier si vous pouviez faire quelque chose pour eux.
Voilà, en fait, on a été sollicité dans un premier temps par des parents qui avaient des petits qui avaient besoin de se rendre dans un hôpital. On avait le cas d'un petit garçon qui avait une greffe, on a eu une petite fille qui avait de la mucoviscidose, voilà. Et donc, les parents étaient quand même relativement inquiets d'emmener leurs enfants dans ces établissements sans aucune protection. Et à côté de ça, le côté masque avait cette vocation un peu anxiogène. Et donc, ils nous ont appelés en nous disant « on a vu que vous fabriquiez des masques pour équiper tout un chacun. Est-ce qu'éventuellement, vous faites des masques pour enfants ?» Bon, donc là, ça, relativement facile à mettre en œuvre. On avait toutes les directives du CHU de Saint-Brieuc nous donnant dimension, etc. pour les enfants. Après, les gens nous disaient « ouais, mais vous pouvez nous faire quelque chose d'un peu sympa, d'un peu gay pour les enfants ?» Et de là est née cette idée de faire des petits masques pour enfants, que ces enfants puissent personnaliser, customiser. Donc on a conçu le petit masque de façon à ce que, avec des feutres à tissu, s'ils veulent que le dessin soit pérenne, et ben ils fassent un dessin sur la partie qu'on a réservée sur ce masque, ou qu'ils y mettent leur prénom, ou le héros favori de la série qu'ils regardent, etc. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Et comme ça, les enfants ont quelque chose qui n'est absolument pas anxiogène. Ça a un petit côté rigolo, parce que j'ai vu des petits dessins d'enfants qui sont mignons comme tout. Et il y a quand même cette première barrière, parce que bon, on est tous conscients qu'effectivement, c'est un masque tissu. C'est une première barrière, mais au moins, elle a un petit côté ludique.
Et alors, vous avez fait deux tailles, c'est ça ?
Trois tailles. Puisqu'on a eu un tout petit, on a été appelé pour un tout petit qui en fait a 3 ans et demi, donc on a adapté une taille que j'ai baptisée premier âge. Ensuite, on a une taille qui fait 4-7 ans, et ensuite on a une taille qui fait 7-12 ans.
Donc on choisit, on peut choisir le tissu. Est-ce que par exemple on peut vous demander de broder quelque chose dessus, ou de faire, de coudre des petits animaux?
Alors, brodeuse, je vais dire non, parce que c'est l'élément est tellement...
Voyez-moi, tout de suite, j'en veux plus.
Un masque de tout petit, donc c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et puis, moi, je suis issue du milieu industriel au niveau de la couture, puisque j'avais une entreprise où je faisais entre autres des collections pour enfants. Donc voilà, j'ai du matériel industriel, donc faire un programme pour simplement une petite broderie, ça c'est un peu compliqué. Par contre, ben voilà, justement, ayant eu cette entreprise, ben j'avais de nombreux tissus dédiés au monde de l'enfance qui me restaient. Donc on a pu faire des masques petits garçons, des masques petites filles. Et par exemple, on a une crèche qui nous a contactés et qui, elle, voulait un tissu bien spécifique qu'on a fait avec leur tissu. Mais en gardant, en fait, le schéma de ce masque customisable.
Oui, et c'est vrai que des initiatives comme la vôtre, il y en a partout. Et c'est ça qui est impressionnant, Elisabeth. Il y a pas mal de petites initiatives très locales, mais c'est quand même important d'en parler.
Mais bien sûr, vous avez le fil solidaire dans les Landes. C'est un projet qui met en relation des couturiers, des couturières bénévoles avec les personnes qui souhaitent des masques. Ils ont mis en place donc ce projet et à travers ce fil, la commune collecte les matières premières, elle recense les couturières et les couturiers solidaires, elle coordonne la conception des masques selon les normes et les patrons de la FNOR, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, ils la remettent aux personnes qui souhaitent bénéficier de ces masques. À Nantes, 600 000 masques certifiés selon aussi les recommandations AFNOR vont être distribués à chaque habitant. Chaque masque va coûter entre 3,50 euros et 4 euros à la commune, mais ce sera totalement gratuit pour les Nantais. Rueil My Maison aussi dans les Hauts-de-Seine, ils fabriquent et distribuent des masques pour tous les habitants. Là aussi, il s'agit de 289 couturières et couturiers bénévoles à qui la ville a fourni le matériel et chaque jour, ils fabriquent des masques dans le gymnase. Voilà, ils en ont déjà distribué samedi dernier. Ce sont les agents municipaux aidés par la réserve citoyenne qui conditionnent ces masques deux par deux dans des sachets, dans des enveloppes et ils les distribuent aux habitants.
Formidable élan qui s'exprime un petit peu partout sur le territoire et bravo à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous. La France bouge continue, il est 13h40.
Europe 1.
Cherchez à vous procurer des masques et vous avez eu du mal, il y a encore quelques semaines à en trouver, eh bien vous allez voir qu'il y a pas mal d'initiatives et parfois des initiatives très originales. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h41, les initiatives fleurissent, y compris pour s'adapter à nos contraintes. Vous allez voir que l'imagination des Français, leur créativité aussi est véritablement sans limite. C'est vrai que nous ne sommes pas tous lotis à la même enseigne hein, quand on cherche un masque. Alors, vous allez voir que certains se sont adaptés aux besoins. Bonjour Anthony Sedicki.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez lancé, vous, la fabrication de visières solidaires. Vous avez autour de vous fédéré un réseau de volontaires qui, grâce aux imprimantes 3D, se sont mis à fabriquer. Vous êtes dans l'Essonne, je crois. Comment est-ce que vous est venue cette idée de fabriquer ?
Ben, en fait, j'ai une amie qui travaillait à la clinique à côté il y a maintenant plus d'un mois, au tout début du confinement, et qui m'a parlé en fait des problèmes d'équipement de protection. Et étant moi-même bloqué à la maison, à côté de mon imprimante 3D, j'ai eu l'idée en fait de commencer à imprimer des visières pour leur permettre de se protéger. Et quand j'ai vu l'accueil que ça a eu au niveau du service des urgences, j'ai été obligé en fait de continuer et j'ai commencé à fournir un petit peu tous les hôpitaux autour de chez moi. Et quand j'ai vu l'engouement, bah, j'ai décidé de faire un appel vidéo pour essayer de ramener un maximum de personnes. Et ça a eu des conséquences assez exceptionnelles, parce qu'au moment, a pris très très vite.
Et vous en avez fabriqué 417 000 ?
Aujourd'hui, avec toute la communauté de makers visières solidaires, on a en effet créé 417 000 visières gratuites, j'insiste sur le mot gratuit, à travers la France et fournies au personnel de santé, les hôpitaux, les cliniques, d'autres métiers en fait de la fonction publique également nous en ont demandé. Je peux pas tous les citer, mais vous imaginez bien que sur 417 000, il y en a eu énormément. Donc oui, c'est assez incroyable.
Mais alors, racontez-moi, comment est-ce que vous avez trouvé la matière première pour les fabriquer ? Comment est-ce que vous avez fait ?
Bah, tout début, en fait, pour la matière première, moi, on en avait en stock. Donc, les makers en sont pour beaucoup, en fait, de leur poche au niveau des premières visières qui sont sorties, même après. Et après, ça a été les dons. On a mis en place, en fait, une cagnotte au début, Vichy, puis une cagnotte Hello Asso lorsqu'on a monté l'association. En un temps record, on va dire une petite semaine pour pouvoir faire des appels aux dons et que ce soit un petit peu plus structuré. Et du coup, aujourd'hui, ben, on a beaucoup de dons qui sont faits, notamment de sociétés, d'associations, pour permettre en fait de continuer à se fournir en matière et d'alimenter en fait les makers des régions en matière première, donc de PLA, c'est du plastique en bobine qu'on utilise pour faire les masques, les supports, les châssis en fait pour les visières. Et du coup, pour éviter la pénurie et que chaque maker commande de son côté, ben, on commande en gros. Et on en est aujourd'hui, je passe avec l'équipe 4 500 € de commandes deux fois par semaine pour pouvoir alimenter les makers, et c'est encore pas suffisant.
Ah oui, et alors là vous commencez à avoir des demandes particulières, hein. Combien est-ce que vous avez de commandes aujourd'hui de particuliers, vous savez nous le dire, vous avez un ordre de grandeur?
C'est très compliqué, on n'a pas pris le temps de faire les statistiques, mais on a de plus en plus de particuliers, notamment depuis la demande de le message de déconfinement du 11. Ça s'est complètement bousculé, et l'éducation nationale, enfin toutes les écoles, en fait, j'ai énormément de proviseurs depuis une semaine. C'est une nouvelle demande en fait qui se transforme. On a un peu moins de demandes au niveau des hôpitaux, mais par contre, c'est en train d'exploser au niveau des autres corps de métier. C'est assez exceptionnel.
Et vous avez, Anthony, c'est important de le souligner aussi, un appel à lancer, parce que vous dites, finalement, la solution aujourd'hui, c'est de créer des usines d'imprimantes 3D pour travailler vraiment à plein régime. Vous dites, il faut absolument qu'on soit soutenu par les industries, par l'État aussi, peut-être.
C'est ça. Ben, je suis en relation, en fait, avec la région Île-de-France et le département 91 pour mettre en place, en fait, des solutions. On est en train d'installer la première ferme de cette taille, en fait, collaborative en Île-de-France, et l'idée, en fait, c'est d'en avoir un maximum. J'aimerais en avoir 300 machines, en fait, dans cette ferme, pour permettre, en fait, de soulager un petit peu le maker qui travaille d'arrache-pied depuis maintenant un peu plus d'un mois, et qui tire sur leurs machines, qui tire sur leur physique. Donc voilà, l'idée, c'est de développer ça et de pouvoir le développer, en fait, par région en France, pour permettre de conserver cette rapidité en circuit court, mais augmenter en fait la capacité de production de façon assez exponentielle.
Et en tout cas, c'est en bonne voie, si j'entends bien ce que vous nous dites, si la région vous soutient le projet. On va nous aussi évidemment l'appuyer. Vous restez avec nous. Elisabeth, il y a une autre initiative concernant les visières, je crois qu'elle vient du côté de Saint-Denis.
Oui, il s'agit d'une usine solidaire dans laquelle il y a une vingtaine de bénévoles et une douzaine d'imprimantes 3D qui ont été prêtées par des médiathèques ainsi qu'un lycée professionnel. Et depuis le début du mois d'avril, cette usine, ces bénévoles fournissent des centaines de visières de protection aux soignants de l'hôpital voisin ainsi qu'aux EHPAD de la région.
Alors on reste ensemble et Anthony, je pense que l'intervenant qui va être en ligne avec nous dans quelques instants va peut-être vous intéresser. C'est Bruno Savage qui est avec nous, qui est cofondateur d'Audira. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
On est ravis de vous avoir en ligne parce que au départ vous fabriquez des bijoux pour les appareils auditifs, mais avec Nathalie qui est votre cofondatrice et qui est elle-même malentendante, vous êtes dit les masques c'est très bien, mais quand on doit lire sur les lèvres avec le masque c'est impossible. Donc vous avez commencé à imaginer un masque avec une partie transparente.
Voilà, tout à fait, effectivement. Donc la mission de base d'Audira, c'est vraiment de transformer les appareils auditifs en accessoires de mode. De rendre le port de l'appareil agréable. Effectivement, bah, notre activité de bijoux a été affectée par l'épidémie et le confinement. Et donc, plutôt que d'attendre sagement un éventuel retour à la normale, on avait vraiment envie de trouver une façon de contribuer un petit peu à l'élan de solidarité, à faire un peu partie de la solution face aux challenges actuels. Et l'élément clé a été une frustration de Nathalie, qui a été en fait avec l'apparition des masques, et bien la difficulté de pouvoir communiquer, puisque ne voyant plus le visage, ne voyant plus les lèvres et les expressions, c'est devenu beaucoup plus difficile de comprendre. C'est de là que nous est venue l'idée des masques à fenêtre, effectivement.
Alors pour l'instant, c'est à l'état de prototype. Vous attendez évidemment d'avoir une validation du côté de l'AFNOR, du côté de la DGA aussi. La difficulté, elle est où justement? Parce qu'il y a des coutures, parce qu'il y a deux matières qui doivent se chevaucher?
Oui, alors les difficultés sont multiples. Il n'y a pas de normes spécifiques à des masques à fenêtres lavables dans les recommandations actuelles. Par contre, effectivement, nous produisons les masques selon leurs recommandations, notamment dans le placement des coutures vers l'extérieur, avec des plis qui permettent l'insert de filtres textiles, papier ou autre. Donc on est effectivement toujours en phase de prototype, mais il est vrai que la démarche génère beaucoup de réactions et d'enthousiasme et met en lumière un vrai besoin qui est pas seulement pour les personnes malentendantes, mais aussi et surtout en fait pour leur entourage, pour leur permettre de les inclure et de mieux communiquer.
Et vous aussi, vous lancez un appel aux industriels, aux ateliers pour qu'ils réfléchissent et vous aident à produire. Justement, Anthony Sedicki, est-ce que ça vous parle, cette histoire de masque avec finalement ces deux matières? Est-ce que vous, de votre côté, vous auriez des pistes?
En fait, je rejoins totalement ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de demandes, notamment au niveau des personnes handicapées pour cette partie visible, notamment au niveau de l'éducation nationale, parce que le problème du masque aussi, c'est que ça bloque le son. Et notamment, vous imaginez bien que dans une salle de classe, en fait, avec un masque sur la bouche, vous faire entendre par les élèves, ça risque d'être compliqué. Donc il y a toutes ces questions-là également pour la partie sourde, d'avoir en fait la capacité de voir les lèvres bouger est quand même très importante. Du coup, en effet, ça me parle totalement. C'est une demande qui est également très grande à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut absolument qu'on y réponde.
Oui, il va falloir réfléchir ensemble et mobiliser les ateliers. Je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont entendre ce message justement pour fabriquer autrement finalement ces masques ou ces visières pour que tout le monde finalement puisse les porter. Elisabeth, je me retourne vers vous. On a énormément d'initiatives. On pourrait en parler pendant 3 heures. Mmh. Mais je voudrais qu'on insiste sur ce masque réutilisable 100 fois qui est Made in France.
Oui, c'est un collectif grenoblois qui a conçu, figurez-vous, en 3 semaines, par impression 3D, un masque réutilisable 100 fois. Donc ce sera une alternative au durable, au masque durable, durable ou jetable. Il a été réalisé en un temps record par un collectif d'ingénieurs, de chercheurs, de chefs d'entreprise de toute la région grenobloise. Il ne s'agit pas d'un FFP1 ni d'un FFP2, vous savez, celui qui est dit en canard, mais d'un FMP1, d'un face mask qui recouvre le nez, la bouche, le menton grâce à une pièce faciale souple qui épouse la forme du visage. Ça s'appelle Ocove et c'est donc un masque réutilisable grâce à l'usage de 5 filtres lavables que l'on change, chacun d'entre eux qui peuvent être utilisés une 20aine de fois. Donc c'est seulement le filtre que l'on change à l'intérieur, c'est ça la petite astuce.
Oui, beaucoup d'astuces, beaucoup d'ingéniosité chez les Français qui ont inventé effectivement en quelques semaines, 8 semaines, toutes ces possibilités. C'est impressionnant. Un grand bravo à tous et un grand merci parce que c'est très utile tout ce que vous avez mis en œuvre depuis le début de ce confinement. Elisabeth, on se retrouve demain, nous. Il est 13h52.
Demain, avec plaisir.
Et demain, nous parlerons jardinage et muguet, évidemment, puisque nous serons le 1er mai.
À demain et portez-vous bien.
Portez-vous bien, 13h52. On reste ensemble, on va continuer à parler de vous, avec vos questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte, c'est Roland Pérez qui vous répond. À tout de suite.
Raphaël Duchemin.
13h54 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver vos questions et les réponses de notre expert en droit, Roland Pérez, est avec nous comme chaque jour juste avant 14h. Bonjour Roland.
Bonjour Raphaël, j'espère que vous allez bien.
Je vais bien, je vous remercie et j'espère que vous allez bien également. C'est vrai que c'est une phrase qu'on prononce souvent en ce moment.
Mais oui.
Alors, nous avons, comme chaque jour, beaucoup de questions à vous poser, Roland, à commencer par celle de Myriam. Myriam qui habite dans le Grand Est, elle se dit que probablement son département sera classé rouge, on le saura ce soir. Est-ce que cela peut remettre en cause le fait de pouvoir me déplacer sans attestation à partir du 11 mai, nous demande-t-elle, et de me rassembler avec 10 personnes maximum?
Alors, on le sait, hein, on essaye de talonner un petit peu les réponses des uns et des autres et des pouvoirs publics. On sait que les déplacements interrégionaux ou interdépartementaux, il y a un critère de distance qui a été défini pour limiter ces déplacements, ce fameux critère des 100 kilomètres. La difficulté est de savoir si on va pouvoir se déplacer d'une zone rouge qui va être définie d'ailleurs cet après-midi et qui va changer quasiment tous les jours puisque la France va être divisée en zone rouge et en zone verte et va être réactualisée quasiment tous les jours. Donc la difficulté est de savoir est-ce qu'on va pouvoir, même à moins de 100 km, se déplacer d'une zone rouge à une zone verte ou d'une zone verte vers une zone rouge, et est-ce qu'il faudra pour cela une attestation de déplacement. D'après ce qu'on sait, a priori, il ne faudra pas d'attestation de déplacement dérogatoire avec un motif, c'est-à-dire qu'il faudra s'abstenir autant que possible de transiter d'un département rouge à un département vert pour éviter évidemment de transporter le virus dans des zones moins touchées. Le ministre de la Santé a assuré que ces déplacements ne seront pas formellement interdits et dépendront surtout de la responsabilité de chacun. Et donc, si on habite dans une zone de circulation active du virus, on n'a pas vocation à se déplacer dans les zones dans lesquelles le virus ne circule pas, sauf si vraiment on doit le faire, peut-être pour travailler ou peut-être pour encore une fois aider un proche qui a vraiment besoin de nous et qui est dans une situation difficile. Mais à moins de 100 km, en tout cas, il n'y aura pas besoin d'attestation et on pourra se déplacer, j'ai envie de dire, librement sous ces réserves-là.
Autre question, toujours au 3921 ou sur le hashtag Radio Ouverte pour vous. Roland, c'est Stéphane qui nous dit: qu'en est-il d'un éventuel report des mensualités pour les crédits immobiliers?
Alors, il faut savoir que en France, il n'a pas été légiféré comme cela a été le cas par exemple en Italie, où le gouvernement italien a pris une décision un peu inédite en autorisant la suspension des remboursements de tous les prêts immobiliers jusqu'au 31 décembre 2020. Alors qu'en France, pour beaucoup de particuliers, cette crise sanitaire est synonyme de perte de revenus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut regarder de près son contrat. La plupart des contrats de crédit immobilier normalement prévoient un report des échéances, une modulation des échéances. Et s'il y a bien cette clause de report des échéances, a priori, il n'y aura pas de difficulté. Il faudra voir ce qui est le plus intéressant en considération de sa situation, hein, de revenus aujourd'hui, mais on pourra obtenir ce report. Si vraiment ce n'est pas prévu dans le contrat et que vraiment la personne accuse une perte de revenus importante ou une diminution substantielle de ses revenus, de toute façon, il ou elle pourra obtenir une suspension, cette fois-ci judiciaire, et c'est le tribunal qui va s'y coller en accordant une suspension des échéances de prêts. C'est le code de la consommation qui le prévoit. Il faudra juste, encore une fois, justifier de la situation dans laquelle on est, en sachant que tous les prêts relais, les prêts à taux zéro, les prêts conventionnés, les prêts d'accession sociale, les prêts de 1% du logement ou employeur ne sont pas éligibles à cette suspension des prêts.
Autre question, celle de Daniel. Daniel qui nous dit: est-ce que je suis obligé de payer ma prime d'assurance auto alors que ma voiture est au garage?
C'est une très bonne question, parce que il faut savoir qu'UFC Que Choisir s'est emparé cette question. UFC Que Choisir a d'ailleurs fait une enquête où cette association s'est aperçue que le trafic automobile a chuté de 83%, et évidemment avec lui les accidents de la route. En droit, il est indiqué que les cotisations doivent baisser si la sinistralité diminue. Et d'ailleurs, c'est ce que martèle aujourd'hui l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui souhaite voire baisser, voire supprimer pour les mois à venir les primes auto au prorata, si vous voulez, de ce que les assurés doivent payer sur l'année. Bruno Le Maire s'est ensuite exprimé le 10 avril d'ailleurs sur Europe 1, sur notre antenne, pour réclamer un effort supplémentaire des assureurs, suggérant que l'argent des sinistres qui n'ont pas eu lieu pourrait être rendu aux assurés. Donc aujourd'hui, à la fois l'association de consommateurs, à la fois les pouvoirs publics souhaitent voir les assurés rembourser en partie de leur prime auto pour la période de non-utilisation de leur voiture. Donc moi, mon conseil, c'est de se rapprocher de son courtier, de son agent, de son assureur, et de demander, de calculer véritablement la période de non-utilisation de son véhicule pour demander une diminution des primes à venir ou un remboursement partiel des primes qui ont d'ores et déjà été payées.
Merci Roland pour toutes ces explications. On vous retrouve bien sûr dès demain juste avant 14h pour répondre aux auditeurs. Vous le savez, 3921 et hashtag radio ouverte. Ne bougez pas dans un instant. Christophe Ondelat arrive pour Ondelat raconte.
C'était La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.